Deuxième point, bien entendu, je ne vais pas dire du mal des collègues, hein, c'est pas possible.
Ouais, c'est des prédécesseurs plus que des collègues.
Collègues ou prédécesseurs. C'est vrai que le point de vue qui serait le mien serait un petit peu différent dans la mesure où je pense qu'il n'a pas été vraiment tenu compte dans les tentatives de lecture formelle. Je mets de côté les lectures de type pataphysique comme celles qui étaient proposées par Christeva autrefois, mais en mettant ça à part, en partant de lecture sérieuse.
Vous êtes assez proche de la pataphysique en général, donc vous devriez.
J'adore la pataphysique.
Ah oui, c'est justement. Donc c'est un couteau de Lichtenberg cette phrase parce que.
J'adore la pataphysique. Ouais. Précisément. D'ailleurs, c'était un hommage tout à fait évident.
C'est ça.
Non,
mais je le précisais.
Le texte dont a parlé Jean-Marie Iglesias était un hommage évident au caractère pataphysique, donc éminemment essentiel et estimable de cette lecture. Mais alors pour en revenir à Jacobson, chez Jacobson, il y a, parce que c'est quand même un des exemples les plus puissants d'une lecture, d'une tentative de lecture formelle.
Et d'un sonnet en plus.
Oui, une tentative de lecture formelle. Il y a le problème, c'est précisément l'abandon total, enfin l'incapacité de voir la dimension historique, formelle du texte qu'on est en train de traiter. Il y a un grand effort de voir comment ça se passe, comment se passent les choses linguistiquement, syntaxiquement et autres dans le texte, d'une part. Par ailleurs, si on revient à des principes de nature générale, on va tout de suite à l'antimatière, hein, c'est-à-dire à un degré de généralité où intervient la physique, la cosmologie et tout ça. Mais le fait qu'il s'agisse d'un sonnet, qu'il s'agisse de vers, lui échappe, mais alors totalement. Bon, donc, c'est pas, de ce point de vue-là, c'est pas satisfaisant. On pourrait dire que le genre de lecture formelle que j'ai tenté de faire sont des choses qui essaient de tenir compte d'éléments qui pour moi sont importants dans la composition du poème. Bon là, en gros, ce que je peux dire, par exemple, dans ce qui est de, il y a un livre très intéressant à ce sujet qui est le livre publié par Jean-Claude Gardin. Qui est un livre écrit en collaboration avec un certain nombre de personnes, où il a examiné une trentaine de lectures du sonnet des chats de Baudelaire, notamment celle de Jacobson et Lévi-Strauss, et il pratique, c'est évidemment un livre de sceptique, donc il pratique ce que faisaient autrefois les professeurs de philosophie rationaliste par rapport aux preuves de l'existence de Dieu. Il en abat une à l'aide des autres, et bon, il n'en reste pas grand-chose, hein, en général. Alors voilà, bon, en gros, pour le premier point. Pour ce qui est du rapport à la philosophie, je ne vais pas répondre vraiment sur cette question. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que il y a un autre hors-là de la poésie, et alors qui, lui, apparaît comme hors-là tout à fait au début. Tout à fait au début de ce que je conçois être la poésie, l'idée de la poésie que j'ai maintenant et dont j'ai un peu parlé. Et donc, ça se passe chez les Grecs. Alors, ça apparaît d'une manière tout à fait évidente dans un des textes de Platon qui n'est pas un des textes où il est censé s'attaquer aux poètes. Il y en a plein. Hein, et bon, on a beaucoup parlé de cela, mais il y en a un autre où apparemment il parle d'autre chose. Il en a plus ou moins à certains de ses vieux ennemis, et c'est le dialogue de Protagoras. Et dans le Protagoras, qui est en fait une discussion, qui est évidemment une discussion toujours entre Socrate, Platon et les sophistes, on fait appel à un moment à un poème. Appelle à un poème, et c'est un poème de quelqu'un qui est pour moi le premier des poètes.
Simonide
de Chaos.
Simonide
de Chaos. Et donc il y a ce poème qu'on n'a d'ailleurs presque que là, parce que Platon en cite une partie. D'ailleurs, c'est très symptomatique, il ne cite même pas tout entier. Il en cite des morceaux parce qu'il veut lui faire dire quelque chose. C'est toujours le...
Je vais faire une quatrième.
Bon, voilà, ça commence là. Ça commence là. Il faut lui, il
c'est
veut
la première
lui faire
quatrième
dire
de couverture, alors.
C'est la
tentative
première.
Tentative
de quatrième. Oui, c'est une grosse quatrième de couverture.
Et donc, il lui fait. Et on cherche à savoir. On cherche à savoir ce que Simonide a voulu faire. Et Socrate, en discutant avec Protagoras, fait une lecture critique, mais absolument éblouissante, qui dépasse largement toutes les lectures que Jacobson et moi-même pourrions faire. Il y a vraiment une analyse des termes. On discute la question de savoir
ce que la vertu. C'est purement sémantique,
mais très, très belle. Très belle. Non, elle n'est pas purement sémantique parce qu'elle est linguistique aussi.
Il s'agit de repérer une contradiction, si je me souviens bien, dans le poème. Entre être et devenir, ou je ne sais quoi.
Il s'agit de savoir si en disant qu'il était difficile d'être vertueux, il s'agissait de savoir s'il a dit qu'il était difficile de l'être ou s'il était difficile de le devenir. C'est un des points qui sont disputés. Bon, alors, Socrate fait ça magnifiquement. Et puis à la fin, il dit, tout ça ne sert à rien, parlons de choses sérieuses, car on ne sait pas ce que disent les poètes. On ne peut pas savoir ce qu'ils disent. En gros, ils ne le savent pas eux-mêmes. Et ça, c'est très important parce que c'est destiné à taper, bien entendu. C'est pas destiné là particulièrement à taper sur les poètes, c'est destiné à taper sur Protagoras, donc sur ses ennemis. Et... on ne sait pas ce qu'ils disent, donc ils ne disent rien. Et bien entendu, après, Aristote, dans la métaphysique Gamma, va essayer de forcer ces malheureux contradicteurs à admettre le principe de non-contradiction en disant qu'à partir du moment où on dit quelque chose, on parle, on dit quelque chose. Alors c'est très important d'affirmer que la poésie ne dit rien. La poésie, elle échappe à ça, échappe à cette critique. Et la philosophie, est devant la poésie dans cette difficulté, vraiment depuis le début, parce que la philosophie ne peut pas admettre que la poésie ne dise rien.
Oui.
Je pense.
Dans l'intérêt à distinguer, je pense que tu fais cela entre la philosophie qui serait un savoir ou même un système et la philosophie qui serait simplement un penser, un méditer. Il me semble que tu es toi-même un poète de la méditation.
Vous faites un constant usage. Enfin, si je prends uniquement cet exemple-là, mais on pourra en prendre d'autres, un constant usage, par exemple, là, de la philosophie de Goodman ou de Lewis, etc. Enfin, bon, c'est très présent, par exemple, dans votre dernier livre. Donc, comment, oui. Quel est sur la pluralité des mondes possibles, etc. Bon, et donc, comment vous définiriez, étant donné ce que vous venez de dire, l'usage que vous en faites?
Tout simplement de la récupération, comme les anarchistes nous disaient autrefois qu'il faut faire. On récupère ce qui a été volé. C'est du pur plagiat. C'est du plagiat. Il s'agit de prendre ces choses-là qui, très souvent sont dans un état de langue suffisamment dense pour pouvoir être extrait, faire dire ceci ou faire dire le contraire. C'est exactement ce que fait Simonide de Chaos. Et à partir de là, composer le poème dans une irresponsabilité entière par rapport à la philosophie.
Oui, la poésie n'a rien à faire avec la vérité.
Non, la poésie n'a rien à faire avec la vérité. Elle a affaire avec la mémoire. Elle a affaire avec la mémoire et c'est le point essentiel. C'est pour ça que c'est très intéressant que dans Protagoras, il s'agisse de Simonide de Chaos, puisque c'est celui dont on nous a présenté le mythe des arts de la mémoire, et dont Marcel Détienne et ensuite Sven Bro ont bien montré le rôle essentiel qu'il joue pour la création, la première apparition de l'idée de poète. Il n'y a pas de poésie sans poète. Ça, c'est un autre axiome. Oui, parce que pour certains, il y a de la poésie dans le coucher du soleil, par exemple. Pour moi, pas du tout.
Ça, je pense qu'on serait tous d'accord, en tout cas. Enfin, Jean-Marie Glaise, je pense que...
Oui, je suis le premier à être contre le coucher du soleil.
Contre le coucher du soleil.
Très contre.
Ça se trouve dans du sens de Grémasse.
C'est en quoi Grémasse était donc l'anti-formaliste par excellence.
Certes.
Oui, enfin, sur la philosophie, je veux dire, la question que je me posais, c'était aussi de savoir si cette philosophie-là n'est pas, enfin, la philosophie, je pense, de Goodman, par exemple, n'est pas celle que vous allez choisir contre une certaine philosophie heideggerienne qui croirait assez à la poésie couchée de soleil. Dans la mesure où c'est une philosophie étonnamment prosaïque aussi, enfin, qui est presque un degré, enfin, quand on la lit, qui est un degré roubaldien de la prose, enfin. Enfin, moi, quand je lis ces philosophes anglo-saxons, j'ai le sentiment de lire de la prose de Roubaud. C'est pour ça que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire un certain état de la langue qui est à l'opposé de, justement, d'une certaine tradition allemande de la philosophie, qui s'est fait légitimer par la poésie à Nantes.
Non. Pas tout à fait, parce que ce n'est pas une prise de position par rapport à telle ou telle philosophie. Moi, je prends les choses de langue là où je les trouve. Et par exemple, j'ai utilisé un livre d'un logicien américain sur la théorie des mondes possibles. Il est d'ailleurs, paraît-il, extrêmement inquiet d'ayant appris qu'il y avait un poète français qui avait utilisé son livre, se demande ce qui lui est arrivé. Et je copie ailleurs. Par exemple, j'ai une fois dans un livre de poèmes copié un texte de Denis Roche tel quel. Assez long. Tel quel, oui. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant d'ailleurs sur le mode d'existence de la poésie, parce que ce texte, il se trouve dans un livre que j'ai publié qui s'appelle Autobiographie chapitre 10, donc
qui est un livre avec des moments de repos en prose. Enfin,
moi, moments de repos en prose.
Par rapport à ce qu'on disait précédemment, le titre est tout à fait intéressant.
Oui. Et alors ce texte donc que j'ai copié dans Denis Roche se trouve également présent dans un roman de Georges Perec, oui, qui l'a copié chez moi. Bon. Et donc quelqu'un, en faisant une étude sur Georges Perec, sur la vie mode d'emploi, a constaté cette coïncidence,
migration,
et en a fait part à Denis Roche, qui s'est déclaré fort intéressé par cette situation et n'a pas apparemment décidé de faire un procès en plagiat. Il faut dire, bien entendu, que j'avais quand même pris mes précautions. Et que le texte de Niroche est présenté comme étant lui-même la copie d'un autre texte. Bon. Par rapport à la philosophie, ma position serait exactement la même. Pour moi, cet emprunt que je fais à Denis Roche est philosophiquement aussi essentiel que ce que je peux prendre à David Lewis ou que je pourrais prendre à Heidegger si je connaissais l'allemand, alors que ce qui n'est pas mon cas, alors que je connais l'anglais.
Sur ce sujet-là, tu dirais la même chose? Parce que tu as réagi en disant « mais alors et la vérité dans tout ça ?»
Non, je n'ai pas dit « alors et la
non,
vérité
non, non.
dans tout ça ». Donc je ne crois pas plus à la vérité qu'en Dieu. Non, mais je n'ai rien à dire de spécial. Simplement, ce qui m'inquiète un peu, c'est pas ce que dit en ce moment Jacques Roubaud. C'est peut-être la façon dont ça risque d'être interprété une fois de plus. C'est-à-dire qu'il me semble que beaucoup des choses que dit Jacques Roubaud, pas tellement ce soir, mais notamment celle-ci, malgré tout la dernière, laisse entendre que le texte poétique est ou éventuellement peut n'être que le montage d'un certain nombre d'éléments, etc., et qu'au fond tout cela je veux dire qu'il n'y a pas d'enjeu autre que le montage formel d'éléments qui sont préalablement là, l'histoire de la poésie pour l'autobiographie chapitre 10, etc. Bon, le texte philosophique, donc finalement le texte moderne serait entre autres choses un texte de montage, un intertexte, bon, qui fonctionne d'une certaine manière, etc. Il y a là, comment dirais-je, le risque de la réduction du travail de Roubaud, je pense donc à son dernier livre, à une opération strictement, enfin, de type ludique, etc., jeu auquel il se prête lui-même, etc., en faisant croire bien souvent, en présentant ses livres de cette façon, alors qu'il y a effectivement dans ce dernier livre et dans Quelque chose noir avec lequel ce livre dialogue, dont il est, enfin, la suite, etc., il y a d'autres enjeux, il y a une pensée de la nuit, il y a une pensée de l'identité, il y a une pensée de la mort, enfin, il y a une pensée, c'est pour ça tout à l'heure que je faisais la différence entre pensée et philosophie au sens d'un savoir philosophique constitué qui serait utilisé, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a une redistribution des savoirs dans une métésis, je sais pas comment on dit, l'exégète de Roubaud. Bon, mais voilà ce que je tiens à mettre en garde contre des malentendus, disons, dont je crois que Jacques Roubaud est parfois le premier auteur, c'est-à-dire, voilà. Est-ce que je me suis exprimé peut-être confusément ?
Oh, pas du tout.
Non.
Pas du tout confusément, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire par là. N'est pas que le texte poétique, et bon, prenons l'exemple de...
Produit une pensée, produit de la pensée.
Avant ça, ce n'est pas que le fait qu'il y ait du montage, le fait qu'il y ait des emprunts, tout cela ne veut absolument pas dire qu'il ne s'agit que de cela. Au contraire, c'est probablement une affirmation.
Mais quand on met ça en avant sur un ton désinvolte, on laisse croire que...
Pas du tout. Ça veut dire qu'on ne va pas le chercher ailleurs. Ce qui est dans le livre, c'est ce qui y est arrivé et ce qui est dit. Et ça, c'est dit par le poème en le disant. Et ce n'est pas, par conséquent, ce qu'a dit David Lewis ou ce qu'a dit quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est que la manière dont c'est fabriqué, dont ça a été monté. Ce n'est pas que du montage. Il n'y a pas que ça. Bon, par ailleurs, à cause de ça, je récuse totalement l'idée qu'il y a de la pensée. La pensée, c'est autre chose.
Est-ce que je peux vous citer une phrase?
La pensée n'est pas la poésie. La poésie ne pense pas.
Je peux vous citer une phrase de Jacques Roubaud qui m'a paru.
Je suis pas d'accord.
À ce propos, je voudrais vous citer une phrase de Jacques Roubaud dans Soleil du Soleil, en relisant, hier justement la préface de Soleil du Soleil. Et me semble-t-il, par rapport à ça, je suis tombé sur cette phrase que j'ai notée, qui me semble poser problème. Qui est une sorte d'aparté dans cette préface. Jacques Roubaud dit, il n'est pas possible de ne pas, alors qu'il a expliqué le principe du récit formel concernant l'histoire du sonnet, il dit, cette phrase énigmatique par rapport à son propos, il n'est pas possible de ne pas tenir compte du fait esthétique dans une discussion de la forme. La forme sonnet est une forme poétique de valeur exceptionnelle. Et ensuite, il continue à reparler de la forme sonnet. Et il y a cet aparté, et c'est quoi le fait esthétique ? Cette phrase m'a frappé parce que par rapport à la réaffirmation constante de la forme et la forme et la forme et la forme, comme dirait l'autre, il y a tout d'un coup cette mention du fait esthétique, c'est quoi ?
C'est l'effet de poésie, la poésie fait un certain effet. Cet effet est esthétique, cet effet est tout ce qu'on voudra. En particulier, il est en particulier esthétique. Il faut penser l'esthétique à partir de ça.
Ça veut dire qu'il y a des sonnets réussis, des sonnets ratés, des sonnets... Hein, c'est ça ?
Il y a de la valeur.
Il y a de la valeur, voilà, c'est ça.
Il y a de la valeur.
Surtout quand tu dis, par exemple, que Malherbe intervient comme une sorte de catastrophe, enfin, dans cette histoire, dans la mesure où il arrête un peu les choses, il fige, il appauvrit.
Pas un peu.
Il appauvrit, bon, pas un peu, voilà.
Mais je comprends bien qu'il y a... Enfin, je comprends évidemment cette phrase au niveau de la conversation. Simplement, je ne la comprends pas par rapport à la théorie... C'est-à-dire comment cette valeur va s'articuler au récit formel et comment va intervenir pour éventuellement modifier cette histoire formelle telle que vous la définissez. Ce propos, c'est une aparté du style bon, bah, je sais bien qu'il y a des mauvais poèmes et des bons.
Ah non, pas
ou,
du tout.
Ou c'est quelque chose qui rentre. Enfin, comment. Bon.
Pas du tout, c'est que.
Où va se reconnaître, justement, à l'intérieur d'un récit formel,
la question.
La valeur. Enfin, ouais, bon. Bah, la comment
question,
la penser
la question de la valeur est posée par le récit formel. Hein? C'est là. C'est là qu'on peut véritablement voir. Le hiatus qui peut exister entre l'idée de la valeur, qui est l'idée de nature traditionnelle, conventionnelle, imposée, tout ce qu'on voudra, et l'idée de la valeur telle qu'elle ressort de la réflexion de la poésie. À travers le récit formel, probablement, sans doute d'autres manières, mais pour moi, c'est à travers le récit formel, je peux poser cette question de la valeur. Je ne peux pas réellement la poser en dehors de ça. Sinon, ce qu'on retrouve, c'est de la sociologie. On a une sociologie de la valeur. On peut poser la question de la valeur en termes formels. Moi, je ne peux pas la poser autrement.
C'est la complexité, à ce moment-là
C'est un des éléments, oui. Mmh. C'est une certaine mesure de la complexité, aussi.
Y a-t-il des questions dans la salle ?
Non, moi je ne souhaite plus rien dire en fait. Je souhaite me taire, sinon me tairer. Oh, mais il n'a rien à dire.
Non, il n'est pratiquement pas là.
S'il n'y a pas de questions, en tout cas, il y a des poètes dans la salle, mais voilà. Oui.
Merci. Oui, je voudrais que vous expliquiez très rapidement, à votre avis, qu'est-ce qui fait ce qu'on pourrait appeler le divorce du goût public et de la poésie, et à quelle époque ce divorce a pu se produire.
Sixième siècle avant Jésus-Christ.
Parce qu'on a, un petit peu l'impression, si vous voulez, superficiellement peut-être, qu'il s'est produit par exemple au début du XXe siècle.
C'est purement superficiel.
Oui.
Oui.
Oui. Bon, d'accord.
Cela dit, votre question renvoie de nouveau à la définition justement de la poésie, parce que enfin, je pense par exemple à ce qui est écrit Inès de Lamartine par rapport à la poésie.
C'est vrai, Jacques Roubaud l'a observé, l'a montré aussi, mais je pense que on peut pas rentrer du tout dans le fond de ce débat, hein, etc. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu que le fossé ou la distance, disons, entre le travail de poésie et ses lecteurs virtuels, ses lecteurs possibles, cette distance s'est accentuée à partir du moment où la poésie, peu à peu, a perdu ses définitions, sa repérable, enfin sa formalité repérable à partir du moment où elle a connu un certain nombre de ruptures, de bouleversements, de catastrophes formelles. Bon, et dès lors qu'il devenait difficile, la poésie rentrant dans une ère de crise, de recherche de sa forme, le consensus collectif sur la définition formelle de la poésie étant brisé, donc à partir de ce moment-là, effectivement, la poésie est devenue plus difficilement repérable, plus difficilement identifiable. Il est possible donc de dire que on peut dater de la fin du 19e siècle, des années 70, si l'on veut, ce que Julia Kristeva appelait la révolution du langage poétique dans un ouvrage. Bon, par la suite, peut-être cette distance est-elle accentué. Mais c'est tout ce que j'aurais à dire pour l'instant sur ce point.
Attendez, madame, avant de vous donner la parole, Jacques Roubaud veut lire un poème. Et ensuite, ce sera à vous.
C'est un poème qui, vous verrez, qui a un certain rapport avec la position que j'ai défendue. Ce que disait le poème, je l'ai oublié. J'ai su ce que disait le poème, mais je l'ai oublié. Le poème disait cela. Mais cela, que disait le poème, je l'ai oublié. Que le poème disait cela, est-ce cela que disait le poème ? Si c'est cela que disait le poème, je l'ai oublié. Peut-être, sans savoir ce que disait le poème, alors que je disais le poème, au temps où je disais le poème, déjà je l'avais oublié, mais si c'est cela que disait le poème, je l'ai oublié. Maintenant, quand je dis ce poème, je ne sais pas si je dis ce poème, puisque ce que disait ce poème, je l'ai oublié, c'est pourquoi ce que dit ce poème n'est plus vraiment ce que disait le poème, et que j'ai oublié.
Merci.
Ouais.
Madame. C'est une bonne question.
Et alors je répondrai comme répondait, c'est à moi que se pose cette question, comme répondait
c'est
Georges Perros, il disait la poésie n'est pas aimable.
Je m'excuse de vous poser à mon tour une question parce que finalement tout le débat porte sur de possibles définitions différentes de la poésie. Même la question sur le goût public, après tout le goût public, il aime toujours les couchers de soleil. Au fond, il appelle ça aussi la poésie. Donc voilà, qu'est-ce que vous entendez par poésie, vous, de votre côté, quand vous dites aimez-vous la poésie ? Oui.
Et écrit cet hommage à Pierre, parce que ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure sur une... la poésie de Pierre Dupont pour Baudelaire, elle est juste en termes de valeur, non ?
Elle est ?
Elle est juste en termes de valeur.
À un certain moment, pas très longtemps.
Non, mais ça existait quand même. C'est ça, est-ce que ça n'est pas la question qui a été posée sur le goût public, sur une certaine forme de la faveur pour la poésie du public ? C'est ça la question que je voulais.
Comment ? Non, je ne sais pas répondre à cette question de Pierre Dupont. Je sais également qu'un de mes amis, un des auteurs que je lis beaucoup, qui est Stendhal, considérait que le plus grand poète du 19e siècle, c'était Béranger. Voilà. Mais je sais tout.
Un excellent candidat à la présidence de la République, Raymond Barre, a évoqué devant les téléspectateurs le poète Léon Dierckx.
Ah oui.
Donc la rupture avec le public n'est pas totale.
Mais il y a un poète, Eugène Barbier aussi, qui a eu un très remarquable poète. Je pensais aussi au cas d'Eugène Barbier, enfin j'étais plus très sûr du prénom qui.
Auguste Barbier.
Je pense au cas d'Auguste Barbier parce que Auguste Barbier a été énormément traduit en Union soviétique, ce qui fait que dans la partie ex-est de l'Europe, enfin moi ça m'est souvent arrivé de m'entendre parler d'Auguste Barbier. C'est d'ailleurs comme ça que rentrant ici, je me suis dit mais qui est-ce et, parce qu'il a été beaucoup traduit et par d'excellents poètes soviétiques en particulier. Donc il est très connu. Enfin il a été.
Je ne sais pas si ses traducteurs étaient excellents, mais c'était
mais si, il est traduit par Mandelstam. Il y avait plein de gens comme ça qui ont traduit Auguste Barbier.
Mais je voulais dire à la dame là que, à propos de l'amour de la poésie, là, que cette question, moi je suis un être pacifique. Mais je trouve que cette question, c'est une question agressive. Je ne peux pas la comprendre autrement. Oui, c'est une... aimez-vous la poésie ? C'est pour moi une question qui est une agression à mon égard. Mais ça ne me gêne pas, remarquez bien, que d'être agressé. Mais je veux dire, c'est comme cela que je l'entends. Et c'est aussi à cause de cela que je ne peux absolument pas répondre à ce genre de questions. Hein.
Comme celle que vous avez fait là.
C'est pour ça que je lui ai posé tout à l'heure une question sur Lamartine, parce que son choix de Lamartine à l'origine de la poésie moderne, justement, est le choix aussi d'un poète considéré comme le paradigme, justement, du poète du goût public. C'est pour ça que je voulais... Mais il n'a pas voulu vraiment... s'étendre sur ce
non, mais
lac.
Sur ce point,
c'est vraiment,
j'ai,
il s'est réfugié dans
j'ai écrit, l'intimité. J'ai écrit ce que je devais, j'ai dit ce que, par écrit ce que je devais dire, et notamment j'ai écrit, j'ai cru écrire que Lamartine ne disait pas, enfin que ce que disait le texte de Lamartine n'avait qu'indirectement à voir avec, avec ce qu'il dit explicitement, et qu'au fond le texte de Lamartine ne disait rien, rien d'autre que ce qu'il disait en le disant, et d'une certaine manière, et d'une certaine façon, je veux dire, en agitant d'une certaine façon la langue, en l'agitant d'une certaine manière, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Je veux dire que là, sans emprunter à Jacques Roubaud, mais et donc j'ai essayé de montrer cela, et de dire que ce n'est pas pour rien que un des premiers critiques, bon, très rapidement, les Méditations, qui sont un grand livre. Hein. Les Méditations ont rencontré leur public, hein, ont correspondu à quelque chose dans la sensibilité des gens en 1820. Mais ce qui s'est passé quand même, c'est que dans les toutes premières critiques, je me souviens plus, il y a un monsieur qui a écrit dans un journal, qui était un journal libéral, évidemment, parce que Lamartine était plutôt perçu comme un réactionnaire. Hein, bon. Comment dirais-je, il y a un critique qui a écrit que qu'est-ce que c'est que ça, ça ne ressemble pas, ça n'est pas de la poésie, ça ne ressemble pas à de la poésie, ça ne ressemble à rien, ça ne ressemble à rien. Et c'est précisément parce que Lamartine tout à coup touchait à la langue d'une certaine manière inouïe, que ça ne ressemblait formellement à rien, qu'il était en train d'inventer quelque chose formellement, etc., et que bon, c'est là que nous sommes non seulement touchés certainement, mais également extrêmement intéressés du point de vue de la... Voilà.
Et que pensez-vous de cet ami de Lamartine qui était Joséphin Soulary?
Ah, je ne pense rien de Joséphin Soulary, je ne pense rien.
Et dont Rimbaud a parlé comme étant justement un poète qui savait allier le sonnet et ce dont vous parlez, c'est-à-dire la langue par elle-même.
Et vous connaissez ou pas? Jacques Roubaud veut répondre sur Joséphin Soulary, je crois.
Eh bien, c'est un auteur, en effet, de sonnets extrêmement construits, on peut le dire. Je ne pense pas qu'il m'en reste beaucoup dans la mémoire, mais j'ai lu ça autrefois avec beaucoup d'intérêt. Il y a comme ça toute une ligne qui passe aussi par José María de Heredia, par Léon Dierx. Et plus tard, par Joaquin Gasquet, enfin, il y a beaucoup de poètes comme ça. Mais je
mon
préfère
grand-père
quand même
des sonnets. J'ai dit mon grand-père écrivait des sonnets, c'est-à-dire ce qui signifie que... Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'était une pratique. C'était une pratique, je suppose que ça l'est encore. Imaginons ce qu'on appelle le peintre du dimanche, etc. Mon grand-père il était receveur des postes, etc. Il avait des cahiers et il identifiait la poésie immédiatement au sonnet en alexandrin. Et je suppose que sa référence, son modèle, c'était le modèle, disons, parnassien du sonnet, en particulier les trophées.
Je rappelle que Roubaud, il y a quelques jours, était sur cette même scène en train d'incarner José María de Heredia dans une pièce, dans la première lecture, demi-spectacle, demi-lecture d'une pièce de Florence Delay. Donc, oui. Heredia...
Oui, les trophées commencent par cet alexandrin admirable. Le temple est en ruine au haut du promontoire. C'est très, très, très bel alexandrin, qui est entièrement classiquement correct. Car il faut dire ruine, et OO ne fait pas hiatus à cause du H. Donc ça prouve que José María de Heredia avait un sens très aigu de l'humour.
Monsieur?
Peut-être c'est un domaine qu'on dit de loin, ça semble uni, mais quand on regarde plus précisément, quand on s'approche de ce domaine, c'est plus compliqué que quelque chose uni, d'abord. Et deuxième question, est-ce que, par exemple, nous voyons la poésie dans ces notions, nous voyons la même chose que, par exemple, les Grecs antiques? Ça dépend, la poésie, par exemple, de temps, de langue, c'est universel ou non?
La poésie existe-t-elle?
Oui. Voilà. Bon, là, je n'ai pas bien compris la première question. Il faudra y revenir. Sur la seconde, en gros, mon idée, c'est qu'il y a une notion de la poésie qui est la mienne et je crois la voir apparaître en Grèce après Homère. C'est pas Homère, c'est après.
Pourquoi pas Homère?
Parce que au moment où il y a Homère, il n'y a pas la philosophie, il n'y a pas la division du travail intellectuel. Donc tout ce qui est pensé, tout ce qui reste est dit dans le poème. Donc à ce moment-là, et en plus c'est accompagné d'autres choses, la poésie n'est pas seule, elle est accompagnée de musique, elle est accompagnée de danse, etc. Donc il y a une certaine notion de la poésie qui est celle dans laquelle je suis, et je pense en est depuis très longtemps. Je crois qu'elle apparaît pour la première fois là, et bon, on peut donner la figure mythique de Simonide de Chaos pour l'inventeur de cette notion de poésie.
Ah mais attends, il y a quelque chose qui m'inquiète tout à coup. Est-ce que tombait donc hors de la poésie également ce qui, sous forme de vers et d'épopée didactique, enfin je pense par exemple au De Natura Rerum, ces grands poèmes-là, didactiques, qui mettent en scène, en vers, en œuvre, qui translatent Épicure, est-ce que ce poème, bon, ce poème n'est pas un poème?
Si. Pour moi, c'est la poésie. À partir du moment où il y a eu la différenciation, on ne revient pas en arrière. On ne revient pas en arrière. Donc, les gens qui viennent après, ils sont poètes, qu'ils le veuillent ou non.
Cette poésie-là dit quelque chose. Elle est même faite pour cela,
oui, bien sûr,
et même
bien
pour transmettre un.
Hors de doute. Mais elle est par ailleurs aussi poésie. Alors qu'antérieurement, il n'y a pas de différenciation. Ce qui fait que cette idée de la poésie-là, ce n'est pas une idée qui a existé partout, elle n'a pas existé de tout temps, mais on peut reconnaître cet aspect de la poésie, on peut le reconnaître ailleurs. Mais à ce moment-là, quand on le reconnaît ailleurs, par exemple dans la poésie des Indiens d'Amérique du Nord ou dans bien d'autres, on enlève à ce que nous reconnaissons comme poésie d'autres choses qui sont dans ces chants et dans ces danses et qui font que c'est un objet artistique tout à fait différent. Mais on peut y reconnaître, si la on peut y reconnaître ce que j'entends par définition de la poésie. Donc c'est à la fois, je répondrai à la fois que la poésie est universelle et en même temps que, bien entendu, dans énormément de cas historiques, elle est toujours mélangée d'autres choses. Bon, la première question, je ne l'ai pas comprise.
La première question était-elle, est-ce que la poésie est quelque chose uni ou bien on dit poésie, et c'est déjà défini, ou bien il y a des différents, disons, aspects et même contradictions, comme en philosophie, il existe quelque chose qu'on appelle matérialisme, il y a existentialisme, il y a idéalisme, qui sont les controverses les uns aux autres, et ces philosophies, c'est plutôt l'amour aux pensées. Et ça ne définit pas la matière, le mot philosophie, et aussi poésie, le mot poésie. Est-ce que ça définit quelque chose, ou bien c'est plutôt domaine dans lequel on peut définir
les substances? Non, tout seul, ça ne définit rien. Mais on peut donner des approximations de définition, ou du moins certaines directions de définition, en reconnaissant quelques caractères.
Y a-t-il une autre et ultime question? Monsieur, ce sera, j'imagine, la dernière question.
À la limite, ça rejoint un peu peut-être ce que dit M. Gleiss. Pour moi, j'ai connu le Roubaud de l'époque de Change, et même à l'époque où il faisait connaître les grands rhétoriqueurs, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus. Ça partait plus de partout.
Plus de partout.
Et là, le Roubaud d'Hortense, et puis de ce qu'il dit maintenant, j'ai vraiment l'impression de quelque chose de beaucoup plus sectaire, de beaucoup plus étroit. Et je veux dire, qu'effectivement, à la limite, le Roubaud poète, et à l'époque, il était poète, la poésie, elle part partout, et là, on a un peu un discours, effectivement, qui s'enferme dans
une espèce de schéma sectaire.
Et un peu en rejoignant, d'ailleurs, certaines remarques de Gleiss sur ce thème, il y a probablement, dans ce que vous avez écrit dans votre poésie dans les années 70, des choses beaucoup plus riches que dans ce que vous dites maintenant. Mais je...
Eh ben, bon, c'est pas une question. Ce n'est pas une question, je ne peux pas y répondre.
Pour répondre,
ben non. Je ne veux pas vous dire non, c'est pas vrai.
C'est aucun sens.
C'est-à-dire, on peut toujours tout lire. Enfin, les livres sont contemporains, eux, tous, même si Roubaud n'est pas contemporain du Roubaud 1970. Bon. Écoutez, je vous remercie infiniment et je remercie surtout Jacques Roubaud et Jean-Marie Gleiss d'avoir été ici ce soir. Et je vous rappelle que le prochain et dernier débat de cette série, qui mettra en présence Gérard Genette et Renaud Camus, aura lieu le 27 mai à la Revue Parler à 21h.